Chapitre 12. Une soirée de famille. Maggie quitta sa bonne tante Gritty à la fin de la semaine et alla au Pin de Garonne faire visite à sa tante Paulette ainsi que cela était convenu. Pendant ce temps, il s'était passé des choses fort inattendues et on préparait une soirée de famille à Garonne pour annoncer et célébrer un changement de fortune des Talevas, lequel devait probablement dissiper jusqu'à l'ombre de leurs défauts comme le dernier limbe d'une éclipse et faire briller splendidement en eux des vertus jusqu'alors ignorées. Dans beaucoup de familles aisées, des parents auxquels une nouvelle position sociale donne de la valeur sont accueillis avec une bienveillante cordialité, laquelle, n'étant point gênée par la connaissance d'antécédents qui leur sont peu favorables, fait naître l'espoir que, de même, un jour, transportés en plein millénium, nous puissions vivre, grâce à notre ignorance du passé, avec des basiliques qui ne mordront plus et des loups qui ne montreront plus leurs dents qu'avec les intentions les plus innocentes. Lucy vint d'assez bonne heure pour arriver même avant Madame Glegg, car elle était impatiente d'avoir, sans être dérangée, une longue conversation avec Maggie au sujet d'événements si inattendus. « Il semble vraiment, disait Lucy avec son plus joli air de sagesse, que même les malheurs des autres, les pauvres créatures, conspirent maintenant pour rendre la chère tante Taleva, le cousin Tom et la fière Maggie elle-même, si elle n'était pas obstinément décidée au contraire, aussi heureux qu'ils le méritent après toutes leurs adversités. » Pensez que le même jour que Tom est revenu de Newcastle, ce malheureux jeune Jetsam, que M. Wakem avait placé au moulin, est tombé de cheval dans un accès d'ivresse et qu'il est resté à Sintox dans un état si dangereux que M. Wakem a manifesté le désir que les nouveaux acquéreurs entrent immédiatement en possession. C'est bien terrible pour ce malheureux jeune homme, mais il semble que cet accident soit arrivé tout juste au moment voulu pour que le cousin Tom pût obtenir plus vite la juste récompense de sa conduite exemplaire. Papa avait une si haute idée de lui. Tante Taleva doit maintenant aller vivre au moulin et tenir le ménage de Tom. C'était vraiment une perte pour Lucy, au point de vue de la bonne tenue de sa maison. Mais aussi, penser que la pauvre bonne tante serait de nouveau dans son ancienne demeure et pourrait peu à peu y retrouver ses aises. Sur ce dernier point, Lucy avait ses projets mystérieux, et quand elle et Maggie eurent fait leur dangereux trajet jusqu'au bas des escaliers si bien cirés pour entrer dans le beau salon, où les rayons du soleil eux-mêmes paraissaient plus clairs qu'ailleurs, elle dirigea ses manœuvres en habile tacticien contre le côté faible de l'ennemi. « Tante Paulette, dit-elle, en s'asseyant sur le sofa et en arrangeant soigneusement les rubans flottants du bonnet de cette dame, je désire que vous décidiez quel linge et quels objets vous voulez donner à Tom pour son ménage. Parce que vous êtes toujours si généreuse, vous choisissez de si jolies choses, vous savez, et si vous donnez l'exemple, tante Glegg le suivra. C'est ce qu'elle ne pourra jamais faire, ma chère, dit Madame Paulette, parce qu'elle n'a point de linge qui puisse rivaliser avec le mien, je puis vous le dire. Cela n'a jamais été son goût, lors même qu'elle aurait pu en faire la dépense. De grands carrés et la représentation d'animaux, tels que des cerfs et des renards, couvrent tout son linge de table. On n'y trouverait pas un petit point diamanté. Mais c'est une triste affaire que de se séparer de son linge avant de mourir. « Je n'ai pas du tout pensé à faire cela, Bessie, » continua Madame Paulette, secouant la tête et regardant sa sœur Taleva, « quand nous choisîmes, toi et moi, le double diamant pour le premier lin que nous avons jamais filé. Et le Seigneur sait où le tien a passé. Je n'en ai pas eu le choix, bien sûr, dit la pauvre Madame Taleva, accoutumée à se considérer toujours comme une personne accusée. Je suis bien certaine que ce n'était pas mon désir, aussi sûrement que je le suis de rester éveillée bien des nuits, en pensant que mon plus beau linge à œil de perdrix est dispersé par tout le pays. Prenez une pastille à la menthe, Madame Taleva, dit l'oncle Paulette, pensant lui offrir une consolation saine et peu coûteuse qu'il recommandait par son exemple. « Oh, mais, tante Paulette, dit Lucy, vous avez tant de beaux linges, et supposons que vous eussiez eu des filles. Alors, vous auriez bien dû le diviser à leur mariage. Eh bien, je ne dis pas que je vais rien faire, dit Madame Paulette, car, à présent que Tom a réussi aussi bien, il n'est que trop juste que ses amis s'entendent pour l'aider. Il y a le linge de table que j'ai acheté à votre vente, Bessie. Ce n'est que par bonté que je l'ai fait, car il est toujours resté depuis lors dans l'armoire. Mais je ne donnerai plus à Maggie de ma mousseline des Indes ou autre chose si elle retourne en service, quand elle pourrait rester pour me tenir compagnie et s'occuper de ma lingerie si mon frère n'avait pas besoin d'elle. Aller en service était l'expression par laquelle l'esprit d'Hodson désignait la situation d'instituteur ou d'institutrice. Et le retour de Maggie à cette condition inférieure, maintenant que les circonstances lui offraient une perspective plus convenable, devait être un point sensible pour tous ses parents, y compris Lucy. La Maggie d'autrefois, avec sa figure étrange, ses cheveux tombant sur les épaules et promettant à tous égards peu d'avenir, était une nièce très peu désirable. Mais maintenant elle était tout à la fois un ornement et une utilité. Ce sujet fut repris pendant le thé et les crêpes, en présence de l'oncle et de la tante Glegg. Baste, baste, dit M. Glegg, en frappant avec bonté sur l'épaule de Maggie. Ça n'a pas de bon sens. Ne parlez pas de reprendre une place, Maggie. Mais vous devez avoir ensorcelé une demi-douzaine d'amoureux au bazar. N'y en a-t-il pas un qui puisse être un article convenable? Allons, voyons. M. Glegg, dit sa femme, avec ce redoublement de politesse dans le ton sévère, qui allait toujours avec ses tours de cheveux les mieux frisés, vous voudrez bien m'excuser. Mais vous êtes beaucoup trop léger pour un homme de votre âge. Ce sont le devoir et le respect qu'elle doit à ses oncles, à ses tantes et au reste de ses parents si bons pour elle, qui auraient dû empêcher ma nièce de se décider à s'éloigner de nouveau, sans nous consulter. Et non les amoureux, si je dois employer un tel mot, quoiqu'on ne l'ait jamais entendu prononcer dans ma famille. Tiens, comment donc est-ce qu'on nous appelait quand nous allions voir ces dames, eh, voisin Paulette? Elle nous trouvait assez doux et aimable alors, dit M. Glegg, clignant gaiement de l'œil, tandis que M. Paulette, entendant parler de douceur, prenait un peu plus de sucre. « Monsieur Glegg, dit Mme Glegg, si vous voulez devenir grossier, faites-le-moi savoir. »« Allons, Jane, votre mari ne fait que plaisanter, dit Mme Paulette. Laissez-le faire pendant qu'il a la santé et la force. Voilà le pauvre M. Tilt qui a la bouche tordue d'un côté et qui ne pourrait pas rire s'il voulait l'essayer. » « Je vous prierai de me passer le plat de crêpes, alors, Monsieur Glegg, dit sa femme, si je puis avoir la hardiesse d'interrompre vos plaisanteries. Quoiqu'il y ait des gens qui puissent trouver plaisant de voir une nièce traiter légèrement la sœur aînée de sa mère, qui est le chef de la famille, et ne faire qu'entrer et sortir en courte visite tout le temps qu'elle a été à la ville, et ensuite s'arranger pour partir sans me le faire connaître, quand j'ai préparé des bonnets tout exprès pour qu'elle me les monte, et moi qui ai partagé mon argent également. « Sœur, interrompit Madame Taleva avec inquiétude, je suis sûr que Maggie n'a jamais pensé à partir sans passer quelque temps chez vous, aussi bien que chez les autres. Ce n'est pas que mon désir soit qu'elle s'en aille jamais, bien au contraire. Je vous assure que j'en suis innocente. Je lui ai dit et redit, je ne sais combien de fois, ma chère, tu n'as aucune raison de t'en aller. » Mais Maggie a encore 10 ou 15 jours à réfléchir avant son départ. Elle pourra tout aussi bien les passer chez vous, et j'irai la voir quand je pourrai, et Lucy aussi. Bessie, dit Madame Glegg, si vous exerciez un peu plus votre jugement, vous pourriez comprendre que je ne penserais jamais qu'il valût la peine de déplier les rideaux d'un lit et de se donner tant de mouvements pour si peu de temps, quand notre maison n'est qu'à un quart d'heure de promenade de chez M. Dean. Elle peut venir chez moi de bonne heure le matin et retourner tard le soir, et se trouver heureuse d'avoir une aussi bonne tante auprès de laquelle elle peut venir s'asseoir. Je sais que je l'aurais été quand j'avais son âge. Baste, ma sœur, dit Madame Paulette, cela ferait du bien à vos lits d'y faire coucher quelqu'un. Il y a cette chambre à papier rayé qui sent horriblement le moisi, et la glace y est complètement gâtée par l'humidité. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pensé être frappé de mort quand vous m'y avez introduite. Oh, voici Tom, s'écria Lucy en frappant des mains. Il est venu sur Sinbad, comme je le lui avais dit. J'avais peur qu'il ne tînt pas sa promesse. Maggie s'élança avec un vif sentiment de joie pour embrasser Tom à son entrée. C'était sa première rencontre avec lui depuis que la perspective de rentrer au moulin lui avait été offerte, et elle garda sa main dans la sienne en le conduisant à une chaise auprès d'elle. N'avoir aucun nuage entre elle et son frère avait toujours été une envie dominante qui avait en elle des racines plus profondes que tout autre désir. Il lui sourit très amicalement ce soir-là et lui dit « Eh bien, Maggie, comment va la tante Moss ?»« Comment donc, monsieur ?» dit M. Glegg en lui tendant la main. « Vous êtes un homme assez puissant pour vaincre tous les obstacles, il paraît. Vous avez trouvé votre bonne chance bien plus vite qu'aucun de nous autres vieux. Mais je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite bien du bonheur. Vous rentrerez tout à fait en possession du moulin quelques jours, je le garantis. Vous ne vous arrêterez pas à mi-chemin de la montagne. Mais j'espère qu'il aura toujours présent à l'esprit que c'est à la famille de sa mère qu'il en est redevable, dit Madame Glegg. S'il n'avait pas tiré de ce côté, il aurait eu une triste position. Il n'y a jamais eu ni faillite, ni procès, ni prodigalité dans notre famille, ni mort sans testament. Non, ni mort subite, dit tante Poulette. Le docteur a toujours été appelé. Mais Tom avait le teint des Dodson, je l'ai dit d'emblée. Et je ne sais ce que vous avez l'intention de faire, sœur Glegg, mais je compte lui donner une nappe de chacune de mes trois plus grandes dimensions, excepté d'une, ainsi que des draps. Je ne dis pas ce que je ferai de plus, mais je ferai ceci. Et si je devais mourir demain, monsieur Poulette, vous vous en souviendriez, quoique sans doute vous feriez force méprise avec les clés, oubliant toujours que sur le troisième rayon à main gauche de l'armoire, derrière les bonnets de nuit à larges attaches, non pas ceux à petits plis, se trouve la clé du tiroir de la chambre bleue, dans lequel est celle de l'armoire bleue. Vous feriez quelque méprise, et je ne serais pas à même de le savoir. Vous avez une mémoire étonnante pour mes gouttes et pour mes pilules, c'est ce que je dirai toujours de vous. Mais vous êtes perdu au milieu des clés. La triste perspective de la confusion inévitable qui suivrait son décès affectait beaucoup Madame Poulette. Vous poussez trop loin, Sophie, cette manière de voir avant et après, dit Madame Glegg avec un ton presque de dégoût de cette manie. Vous êtes au-dessous de votre famille. Personne ne peut dire que je ne vois pas de haut, mais je ne fais que ce qui est raisonnable et pas davantage. Et quant au linge, je choisirai ce qui peut servir pour en faire présent à mon neveu. J'ai des draps qui n'ont jamais été blanchis, qui valent mieux que la belle toile de Hollande des autres, et j'espère que lorsqu'il y couchera, il pensera à sa tante. Tom remercia Madame Glegg, mais éluda toute promesse de méditer pendant la nuit sur ses vertus. Monsieur Glegg essaya de faire une diversion en demandant à Monsieur Dean ses opinions au sujet de la vapeur. Lucy avait eu son but en demandant à Tom de venir sur Sinbad. Il fut décidé, quand vint le moment de retourner à la maison, que le domestique monterait le cheval et que le cousin Tom reconduirait sa mère et Lucy. « Vous serez assise toute seule, bonne tante, » dit cette insinuante jeune dame, « parce que je veux me mettre à côté de Tom, j'ai beaucoup de choses à lui dire. » Dans la vivacité de son inquiète affection pour Maggie, Lucy ne pouvait différer une conversation à son sujet avec Tom, qui, pensait-elle, devait être plus souple et plus flexible grâce à la joie de voir s'accomplir si rapidement ses désirs à l'égard du moulin. Sa nature, à elle, ne pouvait lui offrir la clé de celle de Tom, et elle fut inquiète autant que peinée en remarquant le changement fâcheux de son expression quand elle lui fit l'histoire de la manière dont Philippe avait usé de son influence sur son père. Elle avait compté sur cette révélation comme un diplomate sur un habile coup de politique qui devait d'emblée ramener le cœur de Tom vers Philippe, et outre cela, lui prouver que le vieux Wakeham était prêt à recevoir Maggie avec tous les honneurs dus à une belle fille. Il ne lui fallait donc plus rien que de voir le cher Tom, qui avait toujours ce sourire agréable quand il regardait la cousine Lucy, se montrer complètement l'opposé de ce qu'il avait été précédemment, et déclarait que pour sa part à lui, il était enchanté que toutes les vieilles animosités fussent apaisées et que Maggie pût épouser Philippe avec toute la promptitude convenable. Dans l'opinion de Lucy, rien ne pouvait être plus facile. mais pour des caractères fortement empreints des qualités positives et négatives qui créent la sévérité, à savoir la force de volonté, la direction invariable vers un but, l'étroitesse d'imagination et d'intelligence, le grand savoir de se dominer et une disposition à dominer les autres, les préjugés sont la nourriture naturelle de tendances qui ne peuvent retirer aucun aliment de cette science complexe, morcelée et provoquant le doute, que nous appelons la vérité. Qu'un préjugé nous vienne par héritage, qu'il flotte dans l'air, soit adopté par tradition ou reçu par les yeux, quelle que soit son origine, ses caractères lui donneront asile. C'est pour eux comme une chose que l'on peut affirmer fortement et hardiment, qui peut remplacer l'absence d'idées spontanées. Une chose qu'on peut imposer aux autres avec l'autorité d'un droit dont on est sûr. C'est en même temps un glaive et un soutien. Tout préjugé qui remplira ces conditions est pour eux une évidence. L'esprit raide de notre ami Tom Taleva était de cette catégorie. Sa désapprobation intérieure des fautes de son père ne l'empêchait pas d'en accepter les préventions, car elles s'exerçaient contre tout homme à la vie et aux principes relâchés, et elles offraient un centre où aboutissaient tous les froissements de son orgueil de famille et de sa fierté personnelle. D'autres idées ajoutaient encore à cette amère répugnance contre Philippe et contre une union de Maggie avec lui. Aussi, malgré tout le pouvoir de Lucy sur la forte volonté de son cousin, elle n'en tira rien qu'un froid refus de jamais approuver un tel mariage. Mais, naturellement, Maggie pouvait agir comme bon lui semblerait. Elle lui avait déclaré sa détermination d'être indépendante. Pour lui, il se sentait lié, par son respect pour la mémoire de son père et par tous les sentiments d'homme, à ne jamais consentir à aucune relation avec les Wakeham. Ainsi, tout le résultat de la médiation zélée de Lucy fut de faire craindre à Tom que la résolution perverse de Maggie de vouloir retourner en place ne se métamorphosa bientôt, comme toutes ses résolutions étaient sujettes à le faire, en une chose également coupable à ses yeux, mais bien différente, un mariage avec Philip Wakeham.